monsieur, bonjour, bienvenue dans cette émission. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour rencontrer des personnes qui font tourner la Terre plus juste. Et aujourd'hui, en parlant de Terre, c'est le bon mot, puisqu'on va parler d'accès à la Terre, pas seulement dans le Sud, mais aussi en Belgique. Et pour aborder ce thème, j'ai deux invités aujourd'hui. Tout d'abord, Zoé Gallet. Bonjour Zoé.
Bonjour.
Zoé, vous êtes juriste. Exactement. Et vous travaillez, je pense, à la boutique de gestion, mais ce n'est pas à ce titre-là que vous êtes là aujourd'hui. On va vous retrouver tout à l'heure pour en reparler. Et mon deuxième invité, c'est François Letocard.
Bonjour, bonjour
François.
Bonjour.
François Letocard, qui est responsable notamment de l'animation des jeunes à Entrée des Fraternités. Mmh. Alors voilà, je vous ai réunis ici et vous connaissez d'ailleurs, puisque François d'abord va nous expliquer ce qu'est ce groupe de jeunes et comment il s'appelle et comment il est né.
Eh ben, il y a une demi-douzaine d'années environ, Entrée des Fraternités a eu envie de travailler avec des jeunes volontaires, donc des jeunes sensibilisés par les questions de solidarité internationale. Et donc ces jeunes, leur propre initiative, ont constitué un groupe, une ASBL, qui s'appelle Alteractif, et qui a trois objectifs. Donc former des jeunes aux questions de solidarité internationale, les rapports Nord-Sud, ces grands enjeux. Sensibiliser d'autres jeunes, ça c'est le deuxième objectif, faire passer des messages pour secouer les jeunes vers plus de solidarité et également mobiliser les politiques, les responsables, les décideurs, les interpeller pour faire tourner la Terre plus juste.
Et donc ça se traduit par des formations, des voyages
Ça se traduit effectivement par une série d'activités de ce type, des formations, des voyages d'immersion dans les pays du Sud, des voyages plus politiques disons, des mobilisations lors des sommets du G8 par exemple, ou des sommets de l'ONU sur différentes thématiques.
Mmh. Zoé, alors vous n'êtes plus membre d'Alteractif puisque vous êtes maintenant dans le monde du travail, mais quand vous étiez étudiante, vous étiez membre. Et bon, comment est-ce que vous avez connu les Alteractifs et qu'est-ce que ça vous a apporté?
Effectivement, en fait j'ai connu les Alteractifs au tout début de la constitution du groupe, lors de la première activité qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire de participer au Forum social européen à Paris en 2004. Si je ne me trompe pas, 2003 même.
Ça
vieillit encore d'un an. Donc on s'est retrouvés dans ce forum social. On a parlé de plein de thématiques sociales. On a été fort concernés, fort préoccupés par l'évolution du monde. Et on s'est dit aussi que ce serait chouette de participer au forum social mondial. Donc moi je suis allée à Porto Alegre l'année suivante. Et puis on a créé ce groupe, mais bon, qui était surtout actif à Liège. Et donc moi, comme j'étais à Louvain-la-Neuve, Bruxelles, voilà, je suivais de loin et j'essayais de participer de temps en temps aux activités ou de relayer.
Est-ce que ça a influencé vos choix professionnels, par exemple, par la suite,
le fait d'être Alteractif ? Oui, c'est clair. Quand j'étais étudiante, j'étais fort intéressée par toute la coopération internationale. Et ça, c'était une des manières de m'y intéresser plus ou de mieux connaître et aussi de se rendre compte des enjeux politiques et de la manière dont on peut vraiment agir en tant que citoyen aussi et influencer le monde, justement, pour qu'il tourne plus juste. Mm-hmm. On disait tantôt.
Et vous ne vous en privez pas d'agir, on va y revenir tout de suite. Alors l'accès à la Terre, François, c'est vrai qu'on pense souvent au Sud quand on parle de cette problématique. On parle ici de petits paysans, évidemment. Quelles sont les grandes problématiques que rencontrent les paysans dans le Sud vis-à-vis de cette Terre ?
Alors d'abord rappeler des chiffres éloquents que tout le monde connaît mais qui sont quand même très interpellants, c'est la question de la faim dans le monde puisque nous sommes aujourd'hui avec environ 1 milliard de personnes qui sont en situation de malnutrition chronique et 70% de ces personnes qui ont faim sont des paysans, des petits paysans, donc des gens qui ont une petite parcelle ou qui exploitent une petite parcelle au niveau familial. Donc ces gens qui devraient théoriquement nourrir leur famille, n'y arrivent pas. On va y venir tout à l'heure. Pour quelles raisons? Notamment parce qu'ils sont mis en concurrence avec des produits étrangers. Mais le premier problème, évidemment, pour le paysan, c'est d'avoir accès au facteur de production numéro un, qui est la terre, évidemment. Donc il y a plusieurs facteurs absolument indispensables pour l'agriculture. C'est la terre, l'accès à l'eau, mais aussi l'accès aux semences, accès au savoir-faire, aux techniques, au crédit aussi. Et la terre, évidemment, le problème numéro un. Alors, de façon très générale, rappelez simplement que la plupart des pays du tiers-monde ont connu la colonisation. Les pays d'Amérique latine, par exemple, ont connu une colonisation extrêmement violente, puisque ce sont les colons qui se sont appropriés les meilleures terres, les plus grandes surfaces, et qui ont repoussé les populations indigènes dans des terres de moindre qualité. Et on retrouve encore cette situation 500 ans plus tard, notamment dans un pays comme le Guatemala, qui est au centre de la campagne de Carême d'Entrée des Fraternités, etc. cette année, où plus de 50% de la population sont des descendants des Indiens, des indigènes mayas, et qui sont, ce sont des gens, des petits paysans, à 80%, qui sont contraints d'exploiter des parcelles de terre extrêmement médiocres, à flanc de collines, à flanc de montagnes. Et donc, ces personnes, ces gens n'ont aucune chance de pouvoir faire face au problème de la faim. C'est ça le problème. Donc ça, c'est, on va dire, la situation qui est héritée du passé, de l'histoire, 500 ans de colonisation et d'exploitation. Et puis, il y a une situation plus actuelle depuis une trentaine, une quarantaine d'années, avec le développement de la mondialisation économique. On constate que l'économie agricole de ces pays s'oriente vers l'exportation et que donc les productions de ces paysans se retrouvent mises en concurrence avec des produits de l'agro-industrie qui viennent du Nord, des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne. Et donc, c'est cette concurrence a cassé en fait la dynamique des marchés locaux. À casser l'échange qu'il y avait entre les différents groupes de producteurs, l'échange de richesses. Et donc la richesse se retrouve aspirée vers l'extérieur du fait de l'inondation, de l'invasion de produits étrangers sur les marchés locaux dans ces pays, notamment en Amérique centrale, mais également ailleurs.
Et ce lopin de terre qu'ils arrivent à avoir, même si ce n'est pas très productif, ils n'arrivent pas toujours même à le garder, on vient parfois le reprendre.
Quoi. Alors le gros problème, évidemment, dans la plupart des pays du Sud, mais bon, évidemment, il y a des généralités, mais c'est l'absence de cadastre et donc de systèmes qui permettent vraiment d'identifier la propriété ou le propriétaire dans le pain de terre. Donc, dans la plupart des pays du Sud, les gens exploitent une parcelle, mais ne peuvent pas produire de titre de propriété lorsqu'on le leur demande, ce qui évidemment facilite l'exploitation de ces gens, leur expulsion, lorsqu'il y a par exemple des projets industriels ou miniers. Donc ces gens n'ont pas la preuve de la propriété de la terre, même si cette terre leur appartient depuis des générations.
Ok, voilà notre première pause musicale qui se pointe déjà. On va écouter le groupe Trio qui nous chante Ce que l'on sème.
J'aurais préféré pour toi juste inverser le cours des choses. J'aurais aimé.
Et toi ?
Une main tendue, une rose.
J'aurais aimé de toi la certitude d'un geste. Simplement quand ça ne va pas, ne pas se fuir comme la peste.
Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème.
J'aurais préféré, ma foi, éviter nos sombres démences. Et maintes fois oublier partir en vacances.
En vacances de toi. Et comme l'amitié nous rattrape à chaque fois. Autant tenir quand ça dérape.
Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème.
J'aurais bien voulu, tu sais, tenir le cap, sauver les murs, courir sans m'arrêter, ne pas frissonner sous l'armure. Et j'aurais voulu, tu sais, la longue traversée tranquille. J'aurais même imaginé
ne jamais atteindre une rive.
Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème.
J'aurais aimé, tu sais, éviter nos fausses mesures. J'aurais même préféré de nous une lettre d'injure.
J'aurais voulu parfois, oui, t'étrangler aux quatre vents, te serrer dans mes bras.
Ah ça, je l'ai voulu souvent.
Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème. Ce que l'on sème.
ce que l'on sème. Ce que l'on sème.
Trio, ce que l'on sème. De semer, il en est question aujourd'hui puisqu'on parle de terre, d'agriculture. Alors je me tourne maintenant vers Zoé Gallet, qui je le rappelle est juriste et qui, dans ses moments de liberté, se préoccupe de l'avenir de l'agriculture, mais en Belgique aussi, parce qu'on a parlé de l'accès à la terre et des problèmes pour conserver sa terre dans le sud, mais ce problème-là se pose en Belgique aussi.
Oui, effectivement, les paysans en Belgique ont aussi beaucoup d'obstacles pour parvenir à développer une activité agricole, surtout dans le marché plus biologique ou de l'agriculture durable, à petite échelle, à taille humaine. Les différents obstacles auxquels ils sont confrontés, c'est notamment d'abord l'accès au savoir, parce qu'il y a beaucoup de savoirs qui se perdent malheureusement. Donc heureusement, il y a quelques écoles qui essayent de faire revivre les vieux savoir-faire, parce que dans les écoles agricoles actuelles, plus grand public, qui touchent les étudiants, on parle très peu d'agriculture durable et agriculture biologique.
C'est plutôt l'agriculture conventionnelle avec les produits chimiques.
Oui, exactement. Ouais. Donc ça, c'est une première difficulté. Une autre difficulté, et François en a parlé pour les paysans du Sud, et c'est une difficulté aussi pour les paysans ici au Nord, c'est de pouvoir écouler leurs produits à un prix juste. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, les prix sont des prix mondiaux qui sont fixés par l'agriculture conventionnelle, justement, qui est super mécanisé, qui ne représente pas du tout les mêmes coûts de main-d'œuvre, notamment, que l'agriculture biologique à taille humaine. Et donc, c'est un gros problème aussi. Donc, pour les petits agriculteurs en Belgique, c'est très important de pouvoir identifier, par exemple, des consommateurs par le biais de groupes d'achat, par exemple, pour pouvoir écouler leurs produits et que les consommateurs soient conscients des coûts de production et acceptent éventuellement de payer un prix plus élevé que pour les produits conventionnels, sachant aussi que la qualité est beaucoup plus élevée que...
C'est ça, on est un peu dans la logique du commerce équitable qu'on pratique avec le Sud. Là.
Tout à fait, exactement. Donc c'est du commerce équitable en Belgique aussi avec nos
paysans. Et donc vous avez fondé, on va y venir maintenant, une association qui s'appelle Terre en Vue et qui cherche justement à aider ces paysans qui veulent faire du bio ou du durable à accéder à ces moyens de production, à aller à la terre notamment.
Ouais.
Alors racontez-nous ça, comment c'est né, d'où est venue l'idée et comment est-ce que ça prend forme.
C'est vrai qu'il y a encore un autre problème qui est l'accès au fonds. Agricole, puisque justement les prix ne permettent pas de couvrir les coûts, c'est aussi notamment dû au fait que la terre est beaucoup trop chère par rapport au prix qu'on peut obtenir avec les produits agricoles issus de l'activité. Et pourquoi est-ce que ces prix sont élevés, les prix de la terre? Parce qu'il y a énormément de spéculation, c'est exactement les mêmes problèmes que dans le Sud. Il y a de la spéculation sur le foncier, parce qu'on veut utiliser la terre pour d'autres choses que pour l'alimentaire. Donc ici en Belgique, il y a beaucoup de concurrence, il y a peu de terres aussi fertiles, et donc on veut y faire toutes sortes d'activités, que ce soit de l'industrie, que ce soit des loisirs, la chasse,
le logement aussi,
l'habitat, tout à fait. Et donc il faut essayer de trouver un équilibre, mais pour le moment, on ne le trouve pas vraiment. La terre est aussi devenue une valeur refuge depuis la crise de 2008. Donc tout le monde veut investir dans les terres, ce qui fait aussi envoler le prix des terres.
C'est quelque chose qu'on trouve au Sud aussi, ça. Oui,
tout à fait.
L'achat des terres. Oui.
Et alors il y a aussi le problème de la politique agricole commune, donc la politique européenne, qui fait que pour obtenir certaines primes, il faut avoir la propriété du foncier. Et donc ça encourage aussi à faire élever les prix. Quoi. Et donc Terre en Vue a décidé de se concentrer sur cette problématique-là, en ayant pour objectif d'acquérir des terres de manière collective, donc avec le plus de parties prenantes, de personnes qui s'impliquent au niveau associatif et citoyen, et mettre ces terres collectives à disposition des agriculteurs qui n'ont pas d'accès à la terre.
Donc on connaissait déjà les GAC ou GAC, qui sont des groupes d'achat collectifs solidaires. Maintenant, ça va encore plus loin. C'est carrément acheter la terre pour la mettre à disposition du paysan.
Voilà, effectivement. Mmh. Plutôt que de juste se limiter à acheter les produits de l'agriculteur, là, on participe véritablement à la constitution de la ferme et au développement de l'activité agricole en participant aux coûts et en essayant de réduire les coûts de production.
Et comment avez-vous procédé? Alors, vous avez fait de réunir des associations pour...
Alors, comment c'est né? En fait, à la base, c'est vraiment né du milieu associatif. Donc, en 2010, il y a plusieurs associations qui se sont réunies et qui se sont dit, on va essayer de soutenir l'agriculture paysanne en Belgique. Alors ces associations, c'était notamment des associations paysannes, donc il y avait deux syndicats agricoles, la FUGEA, le MAP, il y avait une école d'agriculture biologique, le CRAB, il y avait aussi une coopérative qui était en train de se former, une coopérative d'agriculteurs biologiques, donc ça c'était vraiment le côté agricole. Il y avait tout le côté justement plus consommateur, donc les associations qui étaient intéressées par les groupes d'achat comme Nature et Progrès, le réseau des GAZAP, ça c'est plus à Bruxelles, le début des haricots qui se focalise aussi plus sur l'agriculture urbaine, rencontre des continents, etc. Donc différentes associations qui étaient mobilisées plus du côté consommateur. Et puis il y avait quelques associations plus intéressées par la coopération internationale, comme Oxfam Solidarité ou Entraide et Fraternité. Et alors à ça se sont aussi ajoutées des associations qui sont intéressées par l'économie sociale, l'économie solidaire. Donc il y avait Crédal, il y avait le réseau financement alternatif. Et donc toutes ces associations, ça a créé vraiment un réseau assez extraordinaire, ouais, qui a mis en place plusieurs groupes de travail. Il y avait un groupe de travail qui se focalisait plus sur l'accès aux semences, parce que ça aussi c'est une autre problématique, on ne va pas approfondir maintenant, mais un autre groupe de travail, ça a été l'histoire de l'accès aux fonciers. Et donc l'idée était de voir comment on allait développer des outils très, très concrets pour parler de cette thématique. Donc là, on a créé une association pour vraiment dénoncer tous les problèmes d'accès à la terre. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé non plus du bail à ferme, mais ça aussi, c'est une grosse problématique. Donc vraiment, parler de cette problématique, dénoncer, faire du lobby au niveau politique, et aussi essayer de créer plus de transparence entre des terres qui seraient accessibles et des agriculteurs qui ont envie de s'installer. Mmh. Donc ça, c'est l'association. Et puis alors, maintenant, très récemment, on a créé aussi une coopérative agricole qui aura pour objectif d'acquérir les terres collectives.
Voilà, et donc là, il va être question d'argent. On va y revenir après notre deuxième pause musicale. Je vous propose d'écouter une chanson d'un groupe corse qui s'appelle Afiletta. Et la chanson, je vais d'abord vous la dire en français, c'est « Il y a une terre pour toi » et en Corse, ça fait « Una terra c'è », quelque chose comme ça. À tout de suite.
Una terra c'è per voi, di lacrime d'inverno, torre che pane inverno e di luce. Che piglia fine to così tembre dolce confine una tara c'è per voi di sare impeurite di gandia non comintane frastoi quando s'incroscano li doni.
Voilà, c'était le groupe Affiletta avec une chanson sur l'accès à la terre. Il y a une terre pour toi. C'est un peu ce que vous voulez dire aux paysans ici en Belgique, Zoé Gallet. Je rappelle que vous êtes parmi les fondatrices et fondateurs d'une association qui s'appelle Terre en Vue et qui vise à faciliter l'accès à la terre pour les paysans en Belgique qui souhaitent pratiquer l'agriculture biologique ou durable. Alors, on a un petit peu expliqué comment était constituer l'association. Maintenant, comment fonctionne-t-elle? Vous épluchez les petites annonces, vous regardez les terres à vendre et vous allez les acheter?
Alors concrètement, ça se passe fort, pour le moment surtout de bouche à oreille. Donc par exemple, des agriculteurs qui veulent s'installer peuvent nous contacter et alors on va voir avec eux comment on peut créer une dynamique, un projet local. Donc l'idée, ce n'est pas juste d'acquérir une terre, de l'attribuer à un paysan, mais c'est vraiment de créer une dynamique locale. Donc on va essayer de voir autour de l'agriculteur s'il y a des consommateurs qui sont prêts aussi à s'investir dans ce projet et à donner une petite part pour pouvoir acquérir la terre de manière collective et qui est donc une dynamique autour de l'agriculture.
C'est ça, donc c'est pas seulement une affaire d'association, c'est aussi une affaire de citoyens. Et il y a la volonté, comme avec les GAC, d'avoir une relation, une vraie relation entre l'agriculteur et les consommateurs.
C'est ça. Mais en tant que consommateur, si on ne fait pas partie d'un tel groupe, on peut aussi décider de soutenir l'association de manière plus large et de soutenir tous les projets d'un coup en faisant soit une donation à la SBL, soit en investissant dans la coopérative, donc en achetant une part de la coopérative qui permet d'acquérir des terres collectives.
Alors bon, l'association n'est pas très ancienne, hein, ça fait pas très longtemps qu'elle a démarré, mais il y a peut-être déjà des réalisations qui sont à signaler.
Oui, tout à fait. Donc c'est ça qui nous a permis aussi d'aller assez rapidement dans la concrétisation des outils, c'est qu'il y avait un groupe local du côté de Rochefort qui s'était déjà mobilisé autour de son agriculteur et qui s'était rendu compte de ce problème de terre, qui était aussi fort touché par le fait que les terres agricoles de leur village leur échappaient quelque part, que c'était vendu à des étrangers. Donc ils se sont dit, il faut vraiment qu'on garde nos terres chez nous et qu'on les donne à nos agriculteurs. Et donc ils s'étaient mobilisés, ils avaient déjà rassemblé une somme suffisante pour acheter 7 hectares et demi pour leur producteur. Et juste à ce moment-là, ils ont entendu parler de Terre en Vue et donc ils se sont dit, ah ben on va se greffer sur la dynamique plus régionale, voire nationale. Et donc c'est comme ça qu'ils ont attendu en fait que les outils soient mis en place pour être le premier exemple de projet qu'a soutenu Terre en Vue. On va maintenant signer l'acte de vente. Ici fin avril.
Donc, et donc là, c'est un village qui se regroupe et qui forcément va consommer les produits de,
voilà, exactement, de l'agriculteur.
Et donc c'est soit un don, soit une part de coopérateur, c'est ça, c'est une coopérative.
Oui, okay. Exactement.
Okay. François Lautocar, comment est-ce que vous réagissez face à ce genre d'initiative en Belgique? On voit la même chose au sud et pourquoi est-ce qu'entre des fraternités c'est investi là-dedans finalement?
Mais je pense que tant au nord qu'au sud, il y a un combat qui se mène actuellement en faveur d'une agriculture paysanne. Et donc ce que Zoé a dit, elle a bien mis en évidence qu'aujourd'hui, au niveau de l'agriculture, il y a deux modèles qui s'affrontent. Il y a un modèle agro-industriel qui est basé sur la chimie, qui est basé sur la mécanique, qui est basée aussi sur les biotechnologies, OGM, etc. Et en face de ça, il y a un modèle paysan. Ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle paysan, il produit aujourd'hui 70% de l'alimentation dans le monde. Donc l'agro-industrie, c'est environ 20% des terres cultivables, mais c'est à peine 30% des aliments dans le monde. Et donc il y a un combat contre ce modèle agro-industriel qui est le modèle soutenu par la quasi-totalité des gouvernements, mais aussi par les institutions internationales comme l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international, qui promeuvent ce type d'industrie qui profite évidemment une petite minorité, les multinationales, bon, quelques chiffres quand même édifiants, Cargill, qui est une multinationale de l'agro-industrie, ben, contrôle 42% des exportations de maïs. Il y a trois multinationales qui contrôlent 75% de la production de céréales dans le monde. Et donc ce modèle-là est soutenu par les décideurs. Et en face se mettent en place donc des alternatives, une résistance. Alors ce que je vois comme parallèle entre le nord et le sud dans ce que disait Zoé, c'est d'abord que le premier niveau c'est de s'associer, c'est de se mettre ensemble, les paysans, créer des coopératives, des collectivités pour répondre à cette concurrence de l'agro-industrie. Alors au niveau du Sud, évidemment, il y a une première étape qui est vitale, c'est de produire mieux, de produire plus pour nourrir les gens. Là, on en est là. Évidemment, il faut manger. Et la deuxième étape, c'est de développer les marchés locaux, donc de la même manière que ça se fait ici en Belgique. Et donc, je dirais que tant au Nord qu'au Sud, on se bat. J'ai envie de dire qu'au Nord, on se bat plutôt contre la malbouffe. Au Sud, on se bat contre l'absence de bouffe. C'est, je pense, de façon assez résumée, la lutte qui se mène aujourd'hui.
Ok, merci beaucoup. Alors Zoé, si parmi nos auditeurs, il y a des gens qui sont intéressés à participer à cette initiative, que doivent-ils faire?
Mais qui n'hésitent pas à nous contacter, donc par email ou par, par notre site internet. Oui. Qui n'hésitent pas non plus à voir autour d'eux s'il y a des choses à faire à ce niveau-là.
D'accord. Alors on va donner le nom du site, c'est www.terre-en-vue.be. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous les deux d'être venus y participer et à très bientôt sur RCF.
À bientôt.
Merci Isabelle.